J'invite à ouvrir votre Bible. Nous allons continuer notre réflexion sur l'Épître aux Colossiens. Nous sommes toujours au chapitre 1er. Et nous allons lire les versets 12 à 23. Alors 12 à 23, vous allez vous apercevoir que dans cette dizaine de versets, Paul aborde deux sujets. Mais ce soir, on va en voir un seul. Mais on va commencer la lecture tout de suite. Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Lecture où Paul parle de deux choses. À la fois, il parle des chrétiens, de leur salut, de comment ils ont été sauvés. Après, il revient dessus. Et puis, au milieu, il parle de la suprématie de Christ. Alors, c'est vrai que, en fait, du verset 12 à 14, il évoque le salut des chrétiens. Après, du verset 15 à 20, il parle de la souveraineté de Christ, on verra ça la semaine prochaine. Et puis après, il revient sur le sujet du verset 21 à 23, sur l'espérance céleste du chrétien. On va relire, si vous permettez, les versets 12 à 14, et on va reprendre lecture 21 à 23, et vous allez vous apercevoir qu'on pourrait lire ça d'un seul trait. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Verset 21, « En vous, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui vous a été prêché, qui a été prêché à toute la création sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alors on va prendre le temps de voir le sens de chacun de ces versets. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La phrase peut paraître compliquée, mais vous allez voir que c'est très simple. Rendez grâce, c'est ce que Paul nous demande de faire, nous, chrétiens. De savoir sans cesse remercier le Seigneur pour la vie éternelle qu'il nous a donnée. C'est la première mission. Je l'ai entendu dans l'expression de ce soir, parce que c'est bien ça la chose qui a le plus de valeur dans notre vie. Bien sûr, on peut le remercier pour tout le reste, pour le manger, pour le boire, pour le confort, pour la paix. Mais s'il y a bien une chose que le diable ne pourra jamais nous ravir, c'est le salut. Alléluia. Il peut toucher à notre santé, il peut toucher à notre confort, il peut toucher à notre argent, ça il peut. Mais Seigneur, merci, parce que quoi qu'il m'arrive, tu m'as sauvé. Alléluia. Et ça doit toujours faire partie de la vocation du chrétien. Seigneur, je te bénis, je te loue pour la vie éternelle que tu m'as acquise. Et Paul en parle comme un héritage. Un héritage. Ça a beaucoup de sens, un héritage. L'héritage, on le reçoit de qui? De quelqu'un, de nos parents. En l'occurrence, là, ce que Paul nous rappelle, c'est que l'héritage, il nous vient de notre papa spirituel. Je ne sais pas ce que vos parents vous ont laissé comme héritage ou ce qu'ils prévoient de vous laisser comme héritage. J'espère pour vous que c'est un bel héritage. Vous savez, il y a des héritages, tantôt, il faut les payer. Hein. Il ne faut pas toujours accepter des héritages. Hein. Tantôt, c'est des dettes qui sont dans l'enveloppe. Mais là, quand on y réfléchit, c'est l'héritage du Père Céleste. Ça se mesure à combien d'euros, ça? Ah, ça, on peut en mettre des zéros même, avec un chiffre devant d'ailleurs. On a tout. Mais qu'est-ce que nous, on est, bon sang, pour que ce Père-là, qui a tout créé, le ciel, la terre, en qui a toutes les richesses, il nous dit, mon fils, ma fille, ça, je te l'accorde. Incroyable. Ce qui est le plus extraordinaire. Que comme tout héritage, personne ne mérite rien pour l'avoir, un héritage. C'est un droit. C'est un droit. Même si vous avez été méchant, quoi que ce soit, si quelqu'un vous laisse un legs, un héritage, c'est pour vous. C'est un héritage, c'est un droit, c'est un cadeau plus exactement. C'est plutôt un cadeau. Et ce texte nous dit bien que cet héritage, on ne l'a pas acquis par nos capacités. Il nous dit qu'il nous a rendu capable. Il nous a rendu capable. En fait, c'est Dieu qui nous accorde le salut. C'est un cadeau, c'est une faveur. Ce n'est pas par nos œuvres qu'on mérite le salut. Personne ne pourra se justifier. Ce n'est pas non plus une institution religieuse qui accorde le salut. Oh, si on appartient à tel mouvement religieux, alors vous serez sauvés. C'est faux. C'est pas les œuvres. C'est pas un système religieux. Le seul qui donne le salut, c'est Jésus. Comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Le seul qui donne le salut, c'est Jésus. Jésus et Jésus seul. Et c'est lui qui nous rend capables. Capables. Au sens où c'est un cadeau. Ce n'est pas nos capacités qui faisons qu'on a droit au salut. Mais c'est lui qui nous l'accorde. Alors il y a quand même une caractéristique d'avoir part à l'héritage des saints. Ça, on a déjà vu la notion de saints, ce sont les croyants. Les saints, ils sont comment? Ils sont dans la lumière. Que signifie la lumière? En fait, c'est un symbole qui représente la vérité, la pureté, la justice. Oui, Dieu accorde cet héritage aux croyants qui sont dans la vérité, dans la justice, dans la pureté. Ne nous y trompons pas. L'homme qui vivrait dans le péché révèle par son péché qu'il n'est pas dans la lumière et qu'il n'est donc pas en Christ. C'est Jésus lui-même qui le dit en Matthieu chapitre 7, verset 6, dans un autre contexte, mais la philosophie est là. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Mais oui, pourquoi est-ce que Dieu donnerait son héritage à des gens qui vivraient dans le péché, qui s'affectionneraient au mensonge, qui s'affectionneraient à l'injustice, qui s'affectionneraient aux choses impures? Ça ne va pas. Dieu l'accorde, oui, Il veut le donner, oui, ça c'est sûr. Mais pas à n'importe qui. Non pas qu'il est question de mérite, mais c'est une question d'affection. La Bible nous dit en Jean chapitre 3, verset 19, c'était un peu dans le chant aussi qu'on avait chanté. On est dit que la lumière est venue parmi les hommes, mais les hommes l'ont rejetée. Ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Oui, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent les ténèbres. Alors Christ accorde cet héritage. Il est prêt à donner ce qu'il a, ce qu'il est tout entier, son royaume, aux croyants. Mais qui sont dans la lumière? Qui sont dans la justice? Qui sont dans la vérité? Je le rappelle, Jésus accorde, pas comme un mérite, mais comme un signe d'affection. Celui qui s'attache à la lumière reçoit l'héritage. Amen. Il nous a délivrés, c'est le verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Eh oui. De la même manière qu'il y a une différence flagrante, entre la nuit et le jour, il y a une différence fondamentale entre la lumière et les ténèbres. Il nous dit que cet héritage, le salut, et tant d'autres choses, mais en l'occurrence le salut, il est accordé à ceux qui sont dans la lumière. Et il le dira. Mais avant, nous étions dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres? C'est le péché, c'est le mal, c'est ce qui détruit l'être, c'est ce qui l'éloigne, c'est l'orgueil, la rébellion. Enfin, on peut mettre une liste longue. C'est tout ce qui est contraire à la lumière, c'est tout ce qui est contraire à la pureté, c'est tout ce qui est contraire à la justice, c'est tout ce qui est contraire à la vérité. Mais Paul ne parle pas seulement des ténèbres, il ne dit pas qu'il nous a délivrés des ténèbres. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et ça fait une grande différence. Parce que nous sommes chrétiens, pour la plupart d'entre nous. Nous avons reçu Jésus dans notre cœur, il a effectivement bouleversé notre existence. Alors que nous étions attachés aux ténèbres et que nous aimions ça d'ailleurs, même si nous étions tristes, parce que c'était une conséquence. Le jour où il est rentré, ah, quelle respiration, quelle lumière, quelle grâce, quel renouvellement, alléluia. Mais malgré tout, nous continuons à vivre et nous continuons à vivre dans les ténèbres, au sens où nous continuons à vivre avec un contexte qui est enténébré. Et reconnaissons-le, de temps en temps c'est avec nous-mêmes qu'on lutte. Et on peut même encore se surprendre d'avoir de tels sentiments, de telles réactions, de dire mais c'est pas possible, comme mon cœur est encore dur, comme j'arrive encore à être dans les ténèbres et à faire des choix qui ne glorifient pas Dieu, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il nous a donné la délivrance par rapport à la puissance des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière la notion de puissance, Paul est en train de parler d'influence. Et il faut qu'on soit conscient que la vie n'est pas seulement une question de morale. Oh, je fais bien, je fais mal. Mais qu'il y a une puissance d'influence à faire le mal. De la même manière que quand on accepte le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, lui, nous influence à faire le bien. Il nous pousse à faire le bien. Dieu nous a sauvés afin que nous fassions les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Normalement, si on laisse le Saint-Esprit agir en nous, il nous poussera aux actions bonnes. Mais tant qu'on n'a pas accepté le Seigneur Jésus dans son cœur, alors on réalise. Enfin, on ne le réalise pas justement, mais on observe qu'il y a une puissance d'influence qui pousse le monde de plus en plus dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle le monde va de mal en pis. Et on sent que ça presse de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Il y a une pression, pour ne pas dire une oppression spirituelle. Ça s'appelle une puissance. Mais la Bible nous dit, et Paul dit avec force et puissance, il nous a délivrés de la puissance. Ça veut dire qu'il nous a donné la force spirituelle pour briser, pour contrecarrer cette puissance, pour contrecarrer cette influence. Oui, et c'est pour ça que je reprends cet exemple, nous vivons encore dans les ténèbres. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans les ténèbres. Alléluia. Et c'est pour ça, en tant que chrétien, nous continuons à vivre effectivement dans ce monde. Malheureusement, quand il nous dit qu'on a été transporté dans le royaume de son fils, on a malheureusement encore les pieds sur terre, quoi. Personne ici, quand il s'est converti, s'est retrouvé dans un autre monde, matériellement parlant. Personne ne s'est retrouvé catapulté dans un autre pays. Non, on est bien resté. Qu'est-ce que ça veut dire que cette notion, il nous a transporté dans le royaume de son fils, bien-aimé. Transporté, c'est au sens où il nous a déplacé d'un endroit à un autre. Il nous a déplacé. Au sens où, avant, nous étions enracinés, installés dans les ténèbres. Et nous n'avions pas la possibilité de bouger. Nous n'avions pas la puissance de nous sortir de nos mensonges, de nos malaises, de nos angoisses, de notre péché. Nous étions là enracinés, tellement enracinés qu'on ne pensait même pas à un autre choix. Mais Christ nous a délivrés, il nous a apportés sur un autre terrain. Un terrain de liberté, un terrain de grâce, un terrain de lumière. Et c'est ça qui est beau avec le Seigneur. C'est que le pouvoir qu'il nous a donné, il nous a délivré de la puissance, c'est vraiment une puissance qu'il nous a donnée qui nous permet d'être entièrement libérés. Actuellement, pour réillustrer, pardonnez-moi, sur cette notion de pouvoir d'influence et de délivrance, parce que c'est ce que Paul met en avant, il nous a délivrés. C'est une libération, imaginez un prisonnier, il est dehors, il est enfin libre. Le monde, lui, ne gère pas le péché au niveau de la délivrance. Il essaye de confiner. Actuellement, vous savez, il y a un gros problème, c'est Ebola. Ebola. Que faire? L'homme n'a pas de solution. La seule solution qu'ils ont, c'est que ceux qui sont atteints, ils les prennent et on les parque, on les isole. Mais il n'y a pas de solution, en fait. Ils vont continuer à mourir. Christ, quand il nous voit dans notre péché, quand il voit l'homme, la femme prisonnier de son péché, il n'est pas en train de le prendre, il dit, je ne sais pas ce que je vais faire de toi, va là, va avec les autres pécheurs, va avec les autres menteurs, va avec les autres drogués, va avec les autres prostituées, va avec les autres personnes qui sont addictes de films pornographiques, va avec les autres qui sont remplis de haine. Non, il propose la délivrance. Alléluia. Christ est la solution. C'est comme si Christ était celui qui touchait un gars qui est touché par Ebola, paf, il est guéri d'Ebola. Il n'a pas besoin d'être parqué, isolé, il est délivré. Et Christ nous a donné cette délivrance. Et ça, c'est ça un chrétien qui est sauvé. C'est qu'il connaît cette délivrance de cette influence par rapport aux ténèbres. Et effectivement, il nous a transportés, il nous a mis ailleurs. Nos réactions sont différentes, nos états de cœur sont différents. On a bien les deux pieds sur terre, mais notre cœur est ailleurs, notre cœur est au ciel. Avant, notre pied était sur cette terre, avec la misère du monde, mais notre cœur aussi était dans les ténèbres. Nos cœurs étaient attachés à la médisance, notre cœur était attaché à l'argent, notre cœur était attaché à nos angoisses, notre cœur était attaché à l'orgueil. On continue d'avoir les pieds sur terre, à subir les influences de ce monde. Mais nous avons d'autres réactions parce que notre cœur est ailleurs. On pense plus pareil, on parle plus pareil. On n'a plus les mêmes valeurs, on n'a plus les mêmes perspectives. Alléluia Seigneur de nous avoir transportés dans ce monde de vérité, de pureté et de justice. Verset 14, voici deux caractéristiques, pour ne pas dire les caractéristiques du royaume de lumière. Verset 14 nous parle de la rédemption et du pardon des péchés. Alors la rédemption, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un mot, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. En français courant, il est écrit « C'est par lui qui nous a délivrés du mal et que nos péchés sont délivrés. » Délivrés du mal et pardonnés de nos péchés. Une notion de rédemption, elle est liée aussi au trafic des esclaves, la libération qu'on pouvait accorder à un esclave. Dans le monde, oh oui, les gens, quand on leur dit pourquoi Jésus est mort à la croix, ils vont vaguement répéter « Oh, c'est pour le pardon des péchés. » Qu'est-ce que ça veut trop dire? Ils ne savent pas trop, mais ils savent qu'il y a une notion de pardon des péchés. Celui qui va être sauvé, c'est celui qui vit dans la lumière. Amen. C'est pas seulement celui qui sait que Christ est mort pour le pardon des péchés, sans trop savoir ce que ça veut dire. Celui qui est sauvé, Ce n'est pas seulement celui qui a reçu le pardon, parce que Dieu a accordé le pardon à l'humanité, n'est-ce pas? Nous sommes à peu près plus de 6 milliards sur cette terre. Dieu est mort à la croix pour les 6 milliards d'individus. Si Hitler s'était repenti, Jésus lui aurait donné le pardon. Et tant d'autres hommes et femmes qui sur cette terre ont fait des choses tellement horribles, peut-être même qu'au milieu de nous, on s'est senti tellement misérable, noir, qu'on s'est peut-être dit, mais tu pourras jamais me pardonner. Si, Dieu te dit, si, à la croix j'ai pardonné tous tes péchés. Mais, il n'est pas seulement de parler de pardon, il est parlé de rédemption, c'est-à-dire de délivrance par rapport au mal. Dieu ne pardonne pas quelqu'un qui demande pardon et qui recommence la même erreur. Qui va demander pardon pour un péché, mais qui va continuer à rester dans ce péché. Ça n'a aucun sens. C'est dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 2, verset 4, où en gros il dit que celui qui prétend connaître Dieu, mais qui vit dans le péché, qui n'obéit pas au commandement de Dieu, cet homme, c'est un menteur. C'est un menteur. Un peu plus loin, il dira celui qui prétend, qui n'aime pas son frère ou sa sœur, mais qui dit qu'il aime Dieu, c'est un menteur. Il faut connaître la délivrance. Et parce qu'il y a délivrance de nos péchés, parce qu'on aura demandé le pardon, parce qu'on se sera repenti, parce qu'on aura pris la conscience que en péchant, on se fait mal à nous, mais on blesse aussi le cœur du Père. Alors il y a un dégoût, il y a une repentance, on s'humilie devant Dieu, on crie à lui. On dit « Seigneur, change mon cœur, change ma vie !» Alors alléluia, là il y a la délivrance que le Seigneur veut accorder, délivrance et donc pardon. Parce qu'avec le Seigneur, si on délaisse notre voie de péché, pour le Seigneur c'est une chose réglée, il ne va pas revenir dessus. Dans Isaïe, il nous dit que nos péchés, il les a envoyés au plus profond de la mer. Même aujourd'hui, les scientifiques n'y arrivent pas à aller jusqu'au fond de la mer. Alors soyez tranquilles. Ils n'y arriveront jamais. Et même s'ils y arrivent, nous savons que nos péchés sont encore bien plus profonds. Et si effectivement, nous devons réaliser le pardon et dire merci Seigneur pour le pardon, n'oublions jamais qu'il est toujours associé à la rédemption, à la délivrance. Sinon, le pardon n'a aucun sens. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Vous étiez étrangers et ennemis. Que ce soit bien clair, il n'y a pas de relation possible entre la lumière et les ténèbres. C'est pas possible. Jésus lui dit, soit vous êtes amis, soit vous êtes ennemis, soit vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi. Il n'y a pas de demi-péché ou de petit péché ou de péché aux trois quarts, ça n'existe pas. On est dans la pureté ou on est dans l'impureté. On est dans la justice ou dans l'injustice. On est dans la lumière ou on est dans les ténèbres. Avec le Seigneur, il n'y a pas de clair-obscur. Et c'est vrai que l'intérêt de se poser comme de se positionner, se dire mais suis-je ami de Dieu ou suis-je par ma faute, par ma rébellion, par mon attachement à ma misère devenu ennemi de Dieu? Comment? Mais il dit par les pensées, par les actes. Ah oh bah oui, par les actes, ça paraît évident. Mais Dieu connaît aussi nos pensées. Dieu connaît nos pensées orgueilleuses, nos pensées meurtrières, nos pensées assassines. Dieu connaît le visible et l'invisible. Que personne ne se trompe. On ne trompe pas Dieu. On se trompe soi-même. On peut cacher des choses. Et ce n'est pas les hommes, c'est pas devant aucun homme nous aurons à rendre compte. Même pas devant un pasteur, même pas devant un archi, je ne sais pas trop quoi. Le seul à qui nous devrons rendre compte, c'est Dieu. Et lui, on ne peut rien cacher. On est nu comme un ver. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au lieu de nous condamner, parce que chacun, on a quelque chose à se reprocher, n'est-ce pas, devant Dieu. On n'est pas parfait. On pourrait dire... Mais au lieu de nous condamner,
Dieu a un projet de réconciliation. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis, par vos pensées et vos œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort. Et ça, c'est là qu'on réalise tout l'amour de Dieu. Car personne ici, personne sur cette terre, personne sur les 6 milliards ne peut tenir devant Dieu et dire « Mais moi, je suis parfait. Moi, tu peux regarder dans ma vie. » Il n'y a pas une seule minute de ma vie où j'aurais pas honte, mais si, il y a des passages de nos vies où nous aurions honte. Honte. Et Dieu pourrait s'en servir pour nous humilier, pour nous détruire. Mais Dieu a un autre plan. Il a prévu un chemin de réconciliation. Nous qui sommes honteux, nous qui sommes là à vouloir cacher, dissimuler. Le Seigneur est encore celui qui vient en tendant sa main. Et pas une main propre, une main remplie de sang. Une main qui a subi les fouets à notre place. Une main qui a subi les clous à notre place. Avec un visage qui a été humilié, fouetté, giflé, craché, insulté, injurié, déchiré. C'est cet homme qui est devant nous. Alors qu'il a subi tout ça à cause de nous. Nous qui pensions nous protéger par nos mensonges. Lui, il a pris les coups, il a compris, il a pris notre condamnation. Il est mort à cause de nous. Mais il est ressuscité pour nous pardonner. Incroyable. Il est mort à cause de nous. Mais c'est un Dieu ressuscité, glorifié, exalté, qui tend encore la main en voulant nous réconcilier, en voulant nous délivrer, en voulant nous sortir de notre misère, en voulant nous délivrer de ce qui nous tient tellement là, prisonnier de notre misère. La seule chose que nous ayons à faire, c'est à nous humilier, à nous repentir, à dire « Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur, délivre-moi de ma misère. » Et le cœur de Dieu sera réjoui, à tel point, qu'il nous est dit au verset 22, que Dieu a tout fait pour nous réconcilier. À cause de nos péchés, mais qu'il a tout fait afin qu'on puisse se présenter devant lui, dans la sainteté, sans défaut, et sans reproche. Est-ce que c'est possible que moi, je puisse un jour être devant Dieu, être complètement saint, sans défaut, sans reproche? Oui, c'est possible. C'est possible. Parce que Christ, on leur a laissé Christ nous délivrer. Parce qu'on aura laissé Christ nous changer. Et parce qu'en tant que chrétiens, nous serons demeurés dans cette recherche active de la grâce de Dieu. En Romains, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu n'est pas le Dieu qui cherche à nous détruire, mais qui cherche à nous réconcilier avec lui. Évidemment, Paul revient sur une condition sine qua non. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché. Il parle de quoi, Paul? Il dit, mais ce salut, cette grâce, ce bonheur, cette libération, cette délivrance, cette pureté, cette vie de sainteté, ce royaume, cet héritage, il vous est accordé si vous l'avez reçu, si vous l'avez entendu, si vous l'avez serré sur votre cœur. Mais il faut aussi le conserver. Restez dans la parole. Ne vous laissez pas emporter à des théologies. Ne vous laissez pas emporter à des mensonges. Ne vous laissez pas emporter à des religions. Ne vous laissez pas emporter par des paroles vaines. Ne vous laissez pas emporter par des enseignements familiaux. Ne vous laissez pas emporter par des traditions. Ne vous laissez pas emporter par le quand dira-t-on. Ne vous laissez pas influencer par le système du monde. La seule chose qui vous permettra d'être solide et enraciné, c'est de demeurer fondé et inébranlable dans la foi fondée sur la parole de Dieu. Dès que l'on sort de la parole de Dieu, l'homme est en danger. D'où l'importance capitale pour chaque enfant de Dieu de lire, de méditer la parole, de s'y confirmer. C'est la seule encre solide que nous ayons, la seule. Nous sommes sans force, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas dire demain, c'est sûr, je serai encore fort. La maladie peut nous toucher et on ne sera plus les mêmes. Les circonstances de la vie peuvent changer et nos grandes prétentions peuvent se retrouver à néant. La seule chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La seule force que nous aurons, c'est la parole de Dieu. La seule force qui nous sera capable de nous donner de la justesse dans nos jugements, c'est la parole de Dieu. La seule force qui sera capable de nous remettre les pieds sur la terre et les yeux vers le ciel, c'est la nourriture de la parole de Dieu. Tous les enfants de Dieu, ou les chrétiens qui l'ont été, et qui ont décidé de prendre du recul avec la parole de Dieu. Oh, je ne la lis pas beaucoup. Oh, une fois de temps en temps. Oh, oui, je l'ai, mais je n'ai pas envie de la lire. Tous ces chrétiens finissent au naufrage. Tous. 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 Sans exception. Mais tout enfant de Dieu qui s'enracine dans la parole de Dieu se fortifie de plus en plus. Amen. Et dans le monde dans lequel nous sommes, et par rapport à nos faiblesses, on a tellement besoin de la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Que Dieu nous encourage à cela.